La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Kleenex.
Le temps, c'est de l'argent. Et avec Kleenex, les rendez-vous sont rapides.
Le calcul est simple. Infiltration, mammographie, échographie, radiographie. Vous avez votre prescription. KleenexImagerie.com.
3 Kleenex. Un numéro. 653-9933.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, bonjour.
Salut.
T'es-tu rendu au sport?
Mais non.
Mais tu veux me parler de Claude Julien, ils m'ont donné tes sujets. Voyons, c'est l'économie avec Pierre-Yves, les finances personnelles, tout ça. Mais j'ai sur ma liste Claude Julien. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus?
Mais je veux te parler de fin d'emploi.
Ah, ben oui.
Tu sais, on parle de Claude Julien. As-tu déjà vu quelqu'un se faire congédier? Puis qu'on en fait une conférence de presse, une analyse, une suranalyse. On parle de son remplacement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se traite après. Tu sais, Claude Julien, là, il vient de recevoir ça, la nouvelle, paf, d'en face. Puis là, on n'a pas, évidemment, son salaire. On dit dans les médias 5 millions US par année. C'est quand même pas si pire, hein? On n'est pas à l'époque de Pat Burns ou de Jean Perron.
Il n'ira pas au chômage, là.
Écoute, il est en recherche d'emploi, puis il trouve pas. Techniquement, en tout cas, je t'en parle d'une autre façon, c'est-à-dire, OK, disons qu'il restait une année et quelques grenailles à son contrat. Et donc, c'est un congédiement au Québec. C'est un salarié, hein? C'est pas un travailleur autonome.
Y a-tu droit au
chômage? Oui, mais ce qui est drôle, c'est plus... Ben, techniquement, s'il a payé du chômage, puis il cherche un emploi dans son domaine, puis il trouve pas...
Oui,
maintenant, s'il accepte pas les conditions d'un entraîneur adjoint dans la Ligue junior majeure du Québec, c'est une autre affaire. Mais allons plutôt dans les types de paiement.
Okay.
Parce que quand tu te fais mettre dehors, là, son restant de salaire, est-ce que ça va être... traité d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire un prolongement du versement de son salaire. Si c'est le cas, Sylvain, il va être payé, par exemple, pendant les 12 prochains mois quand même.
Oui.
On va lui verser son salaire avec les retenues à la source pour les premiers dollars jusqu'au plafond. Et donc, ce sera fiscalement comme un salaire. Mais disons qu'on le traite comme une indemnité de cessation d'emploi, une retraite anticipée. Hein? Là, on est ailleurs. Parce que c'est pas vu comme du salaire. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aurait pas les retenues à la source à payer au niveau de la retenue. C'est comme une rente de retraite, si tu veux. C'est beau, hein, quand même, des petites subtilités comme ça, qu'on sait pas. Donc, fiscalement, il va payer de l'impôt quand même. Mais s'il avait été engagé par le Canadien avant 1996, il aurait pu faire des transferts directs à son REER. Bon, là, tu me dis, Pierre-Yves, c'est non matériel sur sa paye. Oui, mais c'est bon de faire le parallèle avec nous, là, quand on se fait congédier, voir ce qu'on peut faire. Et je vais aller plus loin. Quand c'est traité comme une allocation de retraite, il y a un impôt à la source. Donc, il y avait un paiement d'un coup pour son année qui reste aussi. Négocier une espèce d'allocation de retraite au lieu de se faire payer pendant un an. Mais plus tu as un salaire élevé, plus on t'en retient à la source au cas où tu ne sois pas capable de payer tes impôts en fin d'année. Donc, la retenue à la source, en bas de 5 000, c'est juste 20 %. C'est 10 %, mais après ça augmente jusqu'à des paliers à supérieur à 15 000. Donc, Claude dépasserait le 15 000. Et donc, il y aurait une retenue à la source importante. Mais là, Claude Julien a une question importante à se poser. Est-ce que Claude Julien est un résident canadien? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'en va tout de suite couper sa carte d'assurance maladie, sa résidence ici, puis il retourne travailler ou vivre aux États-Unis? Si c'est le cas, puis qu'avant de recevoir une allocation de retraite, il décide de partir aux États-Unis, il pourrait être traité comme un non-résident et se faire prendre un impôt à la source de 25 % non assujetti à l'impôt des impôts ici parce que il serait un non-résident. Donc là, il y a des décisions fiscales rapides à prendre après se faire congédier ce matin.
Il faut qu'il t'appelle.
Est-ce que lui, son but, c'est de retourner à l'étranger?
Ouais, c'est ça d'abord qu'il doit décider, là.
L'autre point, Sylvain, que j'ai appris en analysant le sujet, qui est très intéressant.
Oui.
C'est que, mettons que, savais-tu, mettons, t'as une indemnité de départ. Bon, c'est imposable, évidemment, mais si ton indemnité de départ, tu réussis à prouver que ton employeur t'a donné un préjudice d'une souffrance morale ou de la diffamation ou de la calomnie ou de la médisance, puis que tu as un règlement avec ton employeur, là, c'est plus un paiement de retraite, mais un règlement, mais là, ça pourrait ne pas être imposable. Si tu juges que tu as été congédié parce que ton employeur n'a pas respecté les droits de la personne, ça pourrait ne pas être imposable aussi. Ou si ce sont des dommages punitifs. D'ailleurs, sachez ceci. Si Claude Julien dit les Canadiens vont m'aider à me replacer avec des conseils en matière de réemploi ou de retraite, ben les services conseils ne seront pas traités comme un avantage imposable.
Oh.
Quand même. Hein?
Hey, sur les 1634 commentaires, interventions en ondes sur le départ de Claude Julien, honnêtement, t'as réussi à faire différent de tout ce monde-là.
Pierre-Yves, sauf que ça l'intéresse.
Non, mais ça peut intéresser parce qu'on n'a pas les mêmes montants, c'est pas la même situation. Mais ce que tu nous dis, c'est que là, pour les gens qui nous écoutent, ça peut être instructif. Lors d'une perte d'emploi, il y a un enjeu fiscal important et majeur.
Ben, tu peux négocier. Tu sais, si c'est une rente de retraite, si tu es engagé avant 1996 ou avant 1989, il y a des versements que tu peux faire supplémentaires directement à ta retraite. Tu sais, c'est le fun à savoir. Évidemment, il faut pas que tu dépasses ton plafond réel dans certaines situations. Mais c'est intéressant de savoir qu'on te donne certains droits et qu'il y a une négociation. Mais une autre affaire, Sylvain. Quand on te démissionne.
Oui.
Puis que ton employeur t'offre un chèque. Dites-vous tout le temps que le premier chèque offert n'est jamais le bon. Combien de fois des personnes se sont dit, bon, là, on va te démissionner, voici 2 mois de salaire. Puis tu dis, non, moi, je veux 3. Souvent, l'employeur fait, OK.
Non, oui, mais il te met dehors, mais c'est, c'est pas toi qui as le gros bout du bâton, là, il te congédie.
Non, mais attends une minute. Mettons que t'es l'employeur. Ouais. Dis-toi, moi, je trouve que c'est un congédiement qui n'est pas justifié.
Ah, OK.
Tu peux acheter des années. Des fois. Ouais. Moi, j'ai un ami qui a déjà fait ça une couple de fois, ben 2 fois, mettons, là, négocier son départ. Mettons, il dit, écoute, là, moi, j'ai des enfants, là, j'ai fait 8 mois ou 8 ans que je travaille ici, nanana, donne-moi 2 mois de plus, je vais m'en aller sans faire de merde, sans faire d'histoire. Pense pas que les ressources humaines ne veulent pas avoir des plaintes puis des problèmes sur les réseaux sociaux.
Non, c'est bon, ça. Ouais.
Quand tu te fais offrir un chèque, dis-toi que c'est une première offre, puis là, tu peux des fois dire « cette offre est refusée, mais si tu m'offres un peu plus, je vais m'en aller. »
Mais t'as raison, j'avais pas pensé à ça, mais je suis convaincu que ben du monde qui se font congédier, dit « c'est fini, j'ai plus aucun recours, c'est pas moi qui ai le gros bout du bâton, il m'offre de l'argent, un chèque, tu prends ça, puis... »
Ça dépend si t'es syndiqué, puis c'est privé à la convention.
Ouais, je sais,
parle des gens qui sont
pas... Exact, mais c'est pas... Je comprends, parce que l'employeur, il veut que ça se passe bien,
ben oui.
Déjà là, fait qu'il va peut-être t'en donner un petit peu plus... pour acheter la paix, puis garde, on se serre la main, bye-bye, parce qu'une contestation, tu veux éviter ça, même si t'en sors gagnant, avec les avocats, le temps perdu, l'énergie.
Puis pas que ça, le trouble que tu peux faire dans l'entreprise, tu sais, 5 000 $ pour la paix, pour une corporation cotée en bourse, c'est des peanuts, Sylvain.
Okay.
Pour un particulier, 5 000 $, ça peut payer taxes foncières sur 2 ans de maison.
Puis ça, si c'est une compensation, si j'ai bien compris, là, mettons que c'est versé comme compensation, le chèque qu'il te donne de départ, c'est-tu imposable, ça?
Mais si c'est une indemnité de départ ou du salaire différé, ça, c'est imposable, ou un bonus, peu importe. Mais si c'est un règlement, mettons que tu t'en vas en procès, ou que t'as une chicane, là, tu t'es réussi à démontrer en procès que, écoute, là, j'ai été victime de discrimination.
Ouais, ça,
ou
c'est
je dois être payé
ça.
En dommages punitifs. Tout ça, c'est non imposable, potentiellement.
Et est-ce que tu peux avoir ça sans aller en cours? Genre qu'on s'entend...
C'est
que
une bonne question.
T'sais, on ira pas s'astiner devant le juge, mais moi, je veux pas avoir une indemnité, c'est imposable. Je veux avoir une compensation pour... Je sais pas.
D'après ce que je comprends, c'est que c'est quand on parle de dommages punitifs, c'est un tribunal.
Ouais.
Mais disons que tu réussis à démontrer... que tu as été victime de préjudice, de souffrance ou de violation des droits de la personne, là, faudrait qu'on aille voir dans la jurisprudence qu'est-ce qui arrive avec l'impôt. Mais c'est intéressant quand même de dire, si tu as subi un préjudice, le règlement est net parce que c'est comme si on voulait te donner un chèque-nec pour compensation morale.
Tu peux me parler d'Hydro-Québec aussi.
Oui. Il y a une grosse réorganisation, Hydro-Québec. On en a parlé dans les journaux. Bon, on élimine la division transport, production et distribution pour que ça devienne, dans le fond... une partie intégrale, tu sais, intégrante d'Hydro-Québec. Bon, ça a l'air d'une nouvelle qui passe en dessous du radar, comme ça, OK, là, les filiales changent de statut réel, puis là, mais ça change tout, Sylvain. Imagine-toi qu'en dessous, Sophie Brochu, tu avais 3 présidents. Le président de transport, ou transénergie, président production, président distribution.
Gros salaire.
Tu peux garder le même salaire puis les appeler vice-président exécutif maintenant.
Ouais, mais ça coûte
mais
cher.
Le signal que ça envoie, c'est que les divisions, vous ne travaillez plus pour le président de la division, vous travaillez pour Hydro-Québec. Et ça, d'un point de vue leadership, je dois t'avouer que c'est un bon coup. Parce que tu dis, OK, les filiales, tu sais, le président d'une filiale pouvait toujours dire, nous, chez transport, nous, chez production, nous, chez distribution, on travaille pour distribution, mais ils ont des intérêts parfois potentiellement opposés, division puis l'autre.
Je comprends.
Et là, d'éliminer ça, ça met ton leadership en place. Vous travaillez tout pour Sophie Brochu. C'est-tu clair? Une façon très polie de le dire. L'autre point, c'est que ça m'amène à parler des titres en entreprise. Tu sais, en entreprise, là, dans l'administration, ceux qui ont travaillé là-dedans comprennent l'espèce de fierté sociale de chef d'équipe, directeur, directeur adjoint, contrôleur, vice-président adjoint, vice-président exécutif, premier vice-président exécutif, tu sais, et finalement président. Et tout ça, c'est une mécanique hiérarchique qu'on nous met dans la tête, puis qu'on nous dit, hey, tu devrais être fier, content, tu veux le titre, tu veux la progression, tu veux que ton CV change de nom. Mais quand tu regardes dans la substance de ce que tu fais, c'est un peu plus important que le titre. Mais dans ton CV, quand tu passes d'une organisation à l'autre, tu veux pas être la personne dans son CV qui t'a président à vice-président. Tu veux la personne qui est directeur à vice-président. Et c'est comme un peu, t'as déjà joué aux cartes?
Oui.
Tu connais-tu le jeu, le pauvre mec?
Non.
Mais le pauvre mec, tu connais sûrement ça. Oui, exactement ça.
Ah, okay.
C'est parce que mon oncle avait appelé ça le pauvre mec parce qu'il trouvait ça extrêmement vulgaire.
Okay, okay.
Donc, il nous avait dit, vous allez appeler ça le pauvre mec. Mais tu vois, dès qu'on est jeune, le pauvre mec ou le TDC nous apprend à comprendre la hiérarchie sociale.
Hein, c'est vrai que ce jeu-là, ouais, même si tu as des cartes en jeu, autrement dit, même si tu as des belles cartes au début dans tes mains, ouais, il faut que tu les donnes au président puis au vice-président qui, en échange, se débarrassent de leurs mauvaises cartes. C'est souvent même à la job, fais la job sale, puis quand tu as de quoi de bon, anyway, c'est moi qui en profite parce que c'est moi qui gagne. C'est vrai que ce jeu-là, socialement, est très instructif.
Quand tu te passes de président à vice-président ou à secrétaire ou adjoint, ou peu importe les titres, tu le donnes, tu es déçu, tu t'émotions. Quand tu montes, tu es content.
Oui.
Et donc, quand t'as les bonnes cartes, puis qu'en plus tu perds, t'as mal joué tes cartes malgré une position favorable, donc les autres te regardent en riant. Tandis que celui qui a une promotion et qui réussit à bien jouer ses cartes malgré un désavantage au départ parce que tu donnes tes meilleures cartes au président pour vice-président, ça dit une chose, ça démontre dès notre jeune âge à nous conditionner au monde dans lequel on vit de requins.
Dans le sens que c'est déjà injuste. Dès le départ, c'est un peu arrangé que le gars des vues. Là. Les meilleures cartes sont déjà distribuées. Le hasard ne compte pas pour tout. Tu donnes tes meilleures cartes. Sauf que, je vais encourager ceux qui sont en bas, le secrétaire
au TDC. Mais c'est un peu de chance.
Parce que, parce que quand
des triples ou des quadruples.
Oui, parce que, Pierre-Yves, quand t'es président, qu'est-ce que tu peux gagner? Rester à ta place. Mais tu avouez que quand t'es trop de cul ou TDC, excusez-moi pas être vulgaire.
Ah, non, pauvre mec, on dit.
Le fun. Pauvre mec. OK. Quand t'es le pauvre mec, là, le fun de ce jeu-là, c'est de passer de pauvre mec à président.
D'un coup.
Et des fois, tu le dis avec une coupe de 4 puis de 3 puis en jouant bien, tu peux le faire.
Ouais.
Ça, quand tu te lèves puis tu dis au président, tasse-toi.
Tasse-toi de là, je prends ta place.
Oui.
Le fait, c'est qu'on le fait mécaniquement. On se lève de notre chaise et on dit, toi, le président, tasse-toi de là. Moi, je m'en vais, président. Toi, va-t'en en bas de l'échelle, puis après, c'est quoi, va remonter?
Je m'en vais, président. Donc, quand t'es TDC, il faut pas. C'est un challenge. T'as le. Dans ce jeu-là, c'est là où tu peux gagner. Il faut que tu sois TDC pour gagner ton poste de président.
Tout est possible à partir de cette position-là.
C'est possible quand t'es un trou de cul, finalement.
Sylvain.
La leçon, un pauvre mec, attention.
Sylvain, une affaire qu'on peut dire.
Oui.
Le pauvre mec, le jeu de société jour de paye. Et le jeu de société qu'on appelait aussi Monopoly, sont trois jeux qui m'ont aidé en tant que jeune, pour vrai, à comprendre les règles du jeu de la vie.
Ouais.
Et il y avait un autre jeu aussi qui s'appelait Destin. Tu te souviens-tu de ça?
Ben oui, certain. Les petites voitures avec tout ça. Là. Ben oui.
Puis là, il y en avait un, un moment donné, tu arrivais vers la fin du jeu puis tu te retirais philosophe. C'était quoi ça? Là, tu gagnais pas, tu te retirais philosophe. Tu t'allais philosopher. Tu sais, t'es comme... Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que imagine, t'es un kid, tu connais pas grand-chose au monde de l'argent, au monde des affaires, ni à la réalité de la vie.
Ouais, mais tu comprends que si t'es médecin en partant, là, ça aide.
La hiérarchie, le monde immobilier, puis les finances chaque mois, ça te donne une idée. Je joue au jour de paix avec mes fils présentement, ils ont beaucoup de fun à jouer à ça.
Et on apprend des choses. Merci Pierre-Yves.
Salut.
Salut. C'est vrai que les jeux de société.
Mais oui,
c'est pas juste ludique. Mmh. On apprend des affaires là-dedans.
Le destin, la stratégie, c'était tout le temps, t'étais assez chanceux de pogner une job payante comme médecin. Après ça, tu prenais la maison mobile. Tu prenais la maison qui coûtait le moins cher, comme ça, afin que tu gagnais avec le plus d'argent. Parce que le réflexe, quand t'as un gros job, c'est pas tout le temps le gros manoir, mais c'est pas une bonne stratégie à destin.
Mais à destin, ça évidemment, quand t'es médecin en partant, ça aide beaucoup.
Ouais.
Mais t'es pas assuré de gagner.
C'est
la game est pas encore jouée. Il y a une leçon de vie, là.
Ouais.
C'est pas toi nécessairement qui va être le plus heureux, là. Il y a d'autres choix à faire. Comme jour de paye. Comme au trou de cul, c'est vrai qu'il y a une leçon là-dedans. Quand t'es en bas, tu peux plus redescendre, au moins, là. Tu peux juste monter. Alors que le président, lui, il faut qu'il garde sa job. Parce que c'est-tu plate à ce jeu-là quand, à la fin, le TDC, tu sors un 4-5 ou 4-6, puis là, tu t'es pogné avec... T'as juste deux cartes, mais tu pensais y finir, mais l'autre arrive. C'est-tu le fun, un peu, ça?
Oui.
Mais là, j'ai un down. Là.
Pourquoi?
C'est quand la dernière fois que j'ai joué aux cartes.
Ouais, c'est ça.
Ça fait plus d'un an que je n'ai pas joué aux cartes. J'étais un gros joueur de cartes, moi. Et on jouait le midi pendant notre pause ici, Karen. Moi, je mangeais ici avec les collègues, là. Des fois, je mangeais vite parce qu'on a une heure de dîner, on voulait respecter ça, mais j'arrivais plus bonheur parce qu'il y avait de l'action en station.
Puis jouer aux cartes.
Puis on jouait aux cartes. On jouait au Monopoly, mais aux cartes. T'as-tu déjà vu ça?
Non.
Oh, j'ai capoté. Tu joues pas avec le plateau, là. Ça ressemble un peu à... je sais pas comment, à quoi le comparer.
Genre de Uno, mais avec des règles de Monopoly.
Ouais, mais avec des règles de Monopoly. Ou on jouait au TDC. Ça a joué longtemps au TDC, ici en bas, là. Puis, j'avais du fun. Je viens de réaliser que j'ai pas joué aux cartes depuis plus d'un an. Ben, je joue au Blackjack, là, sur virtuel.
Moi, ouais, je joue avec des amis au poker, sur Poker Stars. Puis, tu peux faire ça. C'est pas pire. C'est pas pareil, là.
Non, mais ça comble un peu. Ouais,
mais
ouais.
Oui,
ouais,
tu peux jouer au jeu, là. Puis, belle morale pour terminer. Ah ouais, la différence entre le jeu de trou de cul et la vraie vie, c'est que dans le jeu de trou de cul, tu peux pas être trou de cul et président en même temps.
Il y a un auditeur qui t'a envoyé ça.
Oui.
Trop bon.